Voilà, bah écoutez, c'est Noël, au cas où vous ne le saviez pas. Alors, j'ai décidé de faire une petite parenthèse encore sur la série que nous faisions et de continuer un petit peu sur le thème de Noël que j'ai commencé dimanche dernier. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à Noël, on va faire des achats d'habitude parce que le jour de Noël, c'est quand même un jour important. Et l'autre jour, eh bien, nous étions dans un magasin en train de faire nos achats comme d'autres personnes. Et nous sommes arrivés à la caisse pour payer. Alors, quand on est en famille, c'est moi qui ai le privilège de payer. Donc j'ai sorti mon portefeuille et j'ai sorti une de mes cartes de crédit. J'en ai deux. J'en ai une française et une américaine, d'accord? Et puis alors ce jour-là, j'ai payé avec ma carte américaine, ma carte Visa américaine. Et alors j'étais à la caisse, j'ai donné ma carte à la caissière et elle a fait le nécessaire. Et tout d'un coup, j'entends ces paroles surprenantes. Votre carte ne passe pas, monsieur. J'ai dit, excusez-moi. Elle dit, oui, votre carte ne passe pas, je l'ai essayé 3 fois, elle ne passe pas. Alors, c'est un peu la panique, vous savez, quand ça arrive, ça. Alors, je savais ce qu'il fallait faire, parce que ça m'était déjà arrivé. Je lui ai demandé, écoutez, est-ce que vous pouvez patienter quelques secondes, je vais aller faire un coup de téléphone. Donc, j'ai sorti mon portable, nous sommes dans le monde moderne, et là, j'ai vite composé le numéro de ma banque aux États-Unis. C'est 24 heures sur 24, vous savez comme ça marche aujourd'hui. Et là, une gentille femme, sympathique, de l'autre bout du fil, me répond. Et elle me dit, monsieur, oui, écoutez, après tous les codes qu'elle voulait, écoutez, il y a une activité suspicieuse sur votre carte. Ah. Alors, elle voulait vérifier mon identité. Ça, c'était la clé. Mon identité. Alors, elle a commencé à me poser une série de questions tellement précises que seule elle ou mon épouse auraient pu répondre correctement à ces questions. Ça, c'est évident. Elle voulait absolument être sûre que j'étais qui j'étais et que je n'étais pas quelqu'un d'autre qui avait volé la carte de ma personne, de moi. D'accord? Donc, elle m'a demandé le nom, par exemple, du jeune fille de ma mère. Je vais pas vous le dire, hein, d'accord? Elle voulait savoir le nom de la banque avec laquelle j'avais payé la carte Visa la dernière fois. Elle voulait le montant de mes derniers achats. Elle voulait même mon adresse il y a 10 ans en arrière. Elle voulait être absolument certain. Tellement les questions étaient pointues, c'était évident qu'il n'y avait que nous qui pouvions les répondre. Finalement, elle était convaincue que j'étais bel et bien qui je devais être. Donc ça, j'étais très content. Et là, elle m'a dit, une seconde, monsieur, elle a poussé un certain bouton magique quelque part. Elle m'a dit ensuite, vous pouvez utiliser votre carte maintenant, monsieur. Donc j'ai dit merci. Alors j'avais mon téléphone, je suis allé à la caissière, j'ai dit, madame, vous pouvez réessayer. Elle a marché, tac, ça a joué parfaitement. Et l'achat était bon. Le monde moderne, instantané, qui fait un petit peu peur des fois, d'accord? Parce qu'il y a une dame quelque part aux États-Unis qui a le contrôle sur mon argent. Ça me fait un peu peur des fois. Mais j'ai trouvé intéressant que, instantanément, ça a marché. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Eh bien, parce que notre identité est importante. Vous avez une carte d'identité, n'est-ce pas? Vous devez avoir une carte d'identité. Parce que votre identité est très importante. Il ne faut pas que vous passiez pour quelqu'un d'autre. Les gens veulent savoir qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est le but d'un passeport ou d'une carte d'identité. Eh bien, nous sommes 5 jours avant Noël. Et pendant cette saison, beaucoup de gens autour de nous sont très distraits. Combien de personnes, en montant leur sapin de Noël, en achetant leurs cadeaux, en célébrant leurs vacances et en préparant leur réveillon, s'arrêtent un instant pour se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous célébrons Noël? En fait, Noël, vous le savez, hein, je pense que si quelqu'un le sait, c'est vous. Noël, c'est un anniversaire. L'anniversaire de Jésus-Christ. Oui, mais alors pourquoi est-ce que nous célébrons son anniversaire? Eh bien, j'aimerais vous citer Jean, qui lui nous donne la réponse à cette question. Il dit dans 1 Jean 4, 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jésus, nous dit Jean, est le sauveur du monde qui a été envoyé par le Père. Alors la question est celle-ci, vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Alors ce matin, j'aimerais, pendant les minutes que nous avons devant nous, j'aimerais examiner l'identité exacte de Jésus-Christ. D'accord ? On va quelque part lire son passeport ou lire sa carte d'identité pour savoir qui il est. Je me suis posé cette question. Si cette dame aux États-Unis, avec qui j'ai parlé, avait eu pas moi, de l'autre bout du fil, mais Jésus. D'accord ? Et s'il avait posé la question, mais qui êtes-vous, monsieur, exactement ? Quelle est votre identité ? Êtes-vous vraiment qui vous dites que vous êtes ? Ou êtes-vous un imposteur ? Qu'aurait répondu Jésus ? Quelle marque de son identité lui aurait-il donné à la dame Visa ? D'accord ? Alors, s'il y a un texte, il y a beaucoup de textes qu'on pourrait utiliser, mais s'il y en a un en particulier qui me semble approprié, c'est un condensé, quelques versets, qui donne l'identité de Jésus-Christ, il se trouve dans Colossiens. Donc, si vous avez vos Bibles, allons à Colossiens. Colossiens, c'est une des épîtres dans le Nouveau Testament. Colossiens, chapitre 1, et on va lire les versets 15 à 19. 15 à 19, d'accord ? Colossiens 1, 15 à 19. Un message que j'ai tout simplement intitulé « L'identité de Jésus-Christ ». Écoutez Colossiens 1, 15 à 19. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » On va s'arrêter là. Alors là, mes amis, c'est de la théologie, d'accord ? Mais on va essayer de rendre cette théologie très pratique et très claire. Juste quelques mots sur l'arrière-plan du livre des Colossiens que l'apôtre Paul a écrit à l'église à Colosse. J'ai eu le privilège, en fait, d'aller à Colosse. C'est un tas de terre aujourd'hui en Turquie. Mais c'était vraiment un privilège de pouvoir être là et de me dire, tiens, c'est ici que c'est arrivé tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi est-ce que Paul a écrit l'épître aux Colossiens ? Il y avait une hérésie grave. Une hérésie, c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement qui menaçait l'Église à Colosse. Et le cœur de cette hérésie subtile diluait la personne de Jésus-Christ. Ces hérétiques, tout simplement, je condense, d'accord, c'était ce qu'on appelle une sorte de doctrine gnostique à l'époque, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils niaient l'humanité de Jésus et le percevaient plutôt comme un esprit plutôt angélique qu'un humain. Ils disaient que si Jésus marchait dans la terre, il ne laisserait pas de traces. Donc ils avaient une conception spiritualisée de l'homme Jésus. L'idée que Dieu pouvait devenir un homme était absurde pour eux parce que ce qui était charnel, la chair était considérée pour eux mauvais, c'était un mal. Et donc Dieu jamais, dans leur vision des choses, deviendrait un homme. Donc ils niaient catégoriquement la divinité de Jésus-Christ, niaient le fait que la Bible dit que Jésus est Dieu. Il y a une secte aujourd'hui qui propage la même erreur, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils nient que Jésus est Dieu. Et donc, en plus, il était absurde pour eux de penser qu'on pouvait être sauvé par Jésus, parce que le salut venait par une connaissance philosophique, mystique, supérieure. Il fallait recevoir de la part de Dieu une sorte de connaissance secrète, supérieure, pour pouvoir vraiment comprendre le salut. Et là, on peut goûter certaines de ces hérésies même dans l'Épître. Par exemple, dans le verset Colossiens 2, 8, il dit « Prends garde que personne ne fasse de vous de sa proie par les philosophies et par les vaines tromperies. » Verset 18, « Que personne, chapitre 2, hein, ne vous apparence d'humilité et par un culte d'ange ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef dont le corps. » Sans entrer dans le détail, il est en train de dire « Ben voilà, ces gens étaient plutôt... poussé vers des pensées mystérieuses, angéliques, philosophiques, mystiques. Mais de dire que Dieu est devenu un homme, alors là, vous êtes fous. C'est ce qui, quelque part, il disait. Alors Paul écrit à l'Église, parce que cette philosophie était en train de frapper sur les portes de cette Église, et là, il écrit clairement qui est Jésus-Christ. Il décrit l'identité de Jésus-Christ. Et dans ce texte, ces quelques versets, Paul donne 6 descriptifs de l'identité de Jésus-Christ. Alors, on va les prendre un à la fois, c'est très simple, mais alors hyper profond. D'accord ? Alors, qui est Jésus-Christ ? Voici peut-être ce qu'il répondrait à la dame visa aux États-Unis. Numéro 1, je suis l'image du Dieu invisible. Je suis l'image du Dieu invisible. Regardez verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, c'est ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est l'image du Dieu invisible? Alors, le mot image est un mot que vous connaissez, c'est le mot icône, qui veut dire image ou représentation ou un signe ou peut-être même photo. Vous prenez une photo, vous avez une image exacte de la chose que vous avez pris en photo. On utilise ça pour décrire une peinture religieuse ou bien une statue exécutée pour représenter visuellement quelque chose peut-être d'abstrait ou spirituel. Le mot en lui-même est tout à fait honorable, c'est pas un mot négatif. Par exemple, dans Matthieu 22, le verset 19, Jésus, on a posé à Jésus la question, est-ce qu'on a le droit de payer des impôts à César? Alors, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir piéger Jésus. Alors, il dit au verset 19 de Matthieu 22, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, lui répondirent. » Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et là, le mot « effigie » ou « inscription », c'est le même mot, l'icône. D'accord ? Donc, l'image de César sur la pièce de monnaie était l'image représentée du vrai César. Voilà l'idée ici. Alors, que dit Paul ? Écoutez, c'est incroyable. Dans Colossiens 1,15, le Fils, donc Jésus-Christ, contexte, est l'image, l'icône, la photo, le tampon, l'exacte représentation du Dieu invisible. Là, il faut s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on vient d'entendre. Alors, c'est intéressant, dans Genèse 1, il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alors, quelle est la différence? Là, c'est intéressant. Nous avons été créés dans l'image de Dieu, qui veut dire que certains aspects de l'homme ressemblent à Dieu, intellect, émotion, volonté, mais pas moralement. Et c'est la grande différence avec Jésus-Christ. Il est dit ici que le Fils est l'image. Est l'image parfaite du Dieu invisible. Jésus était moralement pur et sans péché. Il était omniscient, omnipotent, immuable, omniprésent. Il avait toutes les qualités en lui qui étaient les qualités en Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 4, c'est intéressant, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Alors, il y a certaines personnes, ils écoutent l'évangile et puis ils ne comprennent pas, ils sont voilés. Ça ne rentre pas. « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, certains ont simplement l'intelligence aveuglée, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, virgule, qui est l'image de Dieu. Génial, hein? Jésus est l'image de Dieu. Hébreux 1:3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Tous ces textes nous montrent que la Bible affirme clairement que Jésus est l'image exacte de Dieu. Philippiens 2, 5 et 6 nous dit qu'il existait en forme de Dieu. Et ça peut-être la phrase la plus poignante sur ce sujet, Jean 14, 9, où Jésus lui-même dit « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous savez ce que ça veut dire? Que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est intéressant. Je vais vous poser une question piège. Alors, répondez pas trop vite. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? D'accord. Pas facile, hein, comme question à répondre. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Alors, non et oui. Commençons par le nom. Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit ». Alors c'est dur de voir l'esprit. Alors si tu veux voir Dieu, regarde à qui? À Jésus-Christ. Parce que Dieu est devenu un homme. Il est l'image exacte, Colossiens 1:15, de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est devenu visible en Jésus-Christ afin que l'homme puisse voir le Dieu sinon invisible. Je vous ai dit que ce sera un peu théologique pour commencer, d'accord? Il faut que je me dépêche un petit peu. Jean 8, ouais, on pourrait aller très très loin parce qu'il y a beaucoup là-dessus. Jean 8, 58, Jésus dit aux gens qui l'accusaient, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il prenne des pierres? Parce qu'il est en train d'affirmer, écoutez, avant qu'Abraham, tout début de la Bible, existait, moi j'existais déjà. Non mais tu te prends pour Dieu? Oui, exactement. Clac, on va te tuer. Lapidé pour blasphème. Oh, ils ont compris qu'il se prenait vraiment pour Dieu. Parce qu'il était Dieu. Jean 10, 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus lui dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, des miracles venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Clair et net. Et peut-être le verset le plus cité au commencement, Jean 1:1, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, intéressant, non? Alors, les gnostiques, ils ont vraiment, dans cette première phrase, ils ont été démolis. Verset 15, le Fils est l'image, l'icône du Dieu invisible. Mon ami, Jésus est Dieu, rien de moins. Dieu incarné. C'est pour ça qu'il devait naître d'une vierge. Pour ne pas avoir une nature pécheresse. C'est le but de Noël. Il fallait qu'il naisse d'une vierge. Le Saint-Esprit et Marie ont conçu Jésus. Jésus sans péché, Dieu incarné, qui est rentré dans ce monde en tant que bébé. Là, il faut le faire. Là, il faut le faire. Hérode a loupé ça. Mais les rois mages sont venus de la Perse pour voir ce bébé. Parce qu'ils savaient que c'était un bébé unique. Donc, premier descriptif de l'identité de Jésus-Christ, Jésus est l'image du Dieu invisible. Numéro 2. Jésus, nous dit verset 15, est le premier-né de toute la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier-né de toute la création. Alors, le mot premier-né, c'est le mot prototokos. Alors, il y a les témoins de Jéhovah, par exemple, ils aiment bien cette phrase parce qu'ils disent « Ah, ça prouve que Jésus a été créé !» C'est une création, il n'est pas Dieu. Tac. Alors, bonne logique, mauvaise compréhension du texte et du mot. D'accord? Le mot premier-né, prototokos, peut être utilisé de manière chronologique. Le premier-né de plusieurs. D'accord? Ils ont une famille de 5 enfants, premier-né, claque, c'est le premier-né. Ok, ça c'est possible. Dans Luc 2,7, c'est utilisé comme ça. Mais le mot est aussi utilisé d'une autre manière dans la Bible, l'idée de rang ou de grade ou d'honneur. C'est une expression qui parle d'une primauté plutôt que celui de l'origine. L'idée de rang. Dans la culture juive et grecque de l'époque, le fils premier-né était celui qui avait le droit d'héritage. Le premier-né était l'héritier, mais pas nécessairement le premier-né chronologiquement. Ésaü était le premier-né chronologiquement, Genèse 25, mais c'est Jacob qui était le premier-né dans le sens qu'il lui a hérité. Donc on voit que le terme peut être utilisé de plusieurs manières. Et Jésus ici est le premier-né de toute la création, c'est-à-dire l'héritier de toute la création, l'héritier de tout ce qui existe et conçu pour lui. Ça, on va le voir dans quelques secondes. Alors, il y a beaucoup d'exemples de cette utilisation de ce terme. Israël est appelé le premier-né de Dieu dans Exode 4, 22, mais ce n'est pas le premier peuple né. Il y avait d'autres peuples avant Israël, mais il était considéré le premier-né dans le sens qu'il était honoré ainsi. Le psaume 89, 28, un texte messianique, il dit que le Messie sera le premier-né de Dieu, puis il explique sa pensée. Je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre. C'était le plus honoré, il a plus de valeur que tous les autres. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Alors, est-ce que c'est possible que ce mot veut dire que, simplement, c'est une création? Non, c'est pas possible, parce que il y a plusieurs raisons. Premièrement, le but du texte est de montrer la supériorité de Jésus-Christ, sa divinité. On vient de le voir. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Et le verset 16 montre en plus, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a été créé par lui. Et qui est le créateur? Ben, c'est Dieu. Jésus est le créateur. Dans sa personne de la Trinité, bien sûr. Et donc, cette fausse interprétation, comme quoi Jésus ne serait qu'un homme, ne serait donc pas une réfutation de l'hérésie colossienne, mais justement affirmerait cette hérésie. Donc, il est le premier-né de toute la création, dans toute la création, dans tout ce qui existe, il est celui qui mérite le plus d'honneur. C'est tout. C'est tout ce qu'il est en train de dire ici. Trois. Là, c'est bien vraiment intéressant. D'accord? Trois. Regardez ce verset incroyable, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors vous voyez, cette hérésie à Colosse disait « Ah non, non, Jésus est une création ». Paul réplique « Non, 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 Jésus créé. Il est créateur. » Là, vous n'avez rien compris. Il est créateur. Et ça, c'est affirmé vraiment souvent. C'est intéressant, Hébreux 1:1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé de nos pères et les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Attendez voir. Est-ce que j'ai vraiment bien compris ce qu'il vient de dire? Je répète. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. Il l'a établi héritier de toutes choses. Donc, tout est pour lui. C'est lui qui aura tout à la fin. Par lui, il a aussi créé quoi? L'univers. Alors, c'est quoi l'univers? Ben, c'est tout. Parce que nous faisons partie de l'univers. Le monde fait partie de l'univers. Il a créé l'univers. Je trouve ça vraiment génial. Écoutez ça. Apocalypse 4:11. Tu es digne. D'accord? Alors juste avant, hein, c'est les vieillards qui sont dans le ciel en train d'adorer, louer Jésus. Et ils disent, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors regardez ce qu'il dit ici, dans Colossiens. Ok, on vient de montrer que Jésus est le Créateur, d'accord? Tout a été créé par lui. Alors, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Alors, en premier, les choses visibles. Il est vrai qu'une petite réflexion même sur notre univers pousse notre imagination et notre compréhension au-delà de ses limites. Regardez cette image. Ce sont nos planètes. La taille de notre univers est stupéfiant. Moi, j'ai regardé cette image pendant pas mal de temps, ce matin encore. Et la vraie, notre œil est attiré sur les planètes. Mais moi, mon œil était attiré sur le reste. Sur l'espace noir. Regardez l'espace autour de ces planètes. Le Soleil, par exemple, a un diamètre d'environ 1 392 000 km. À peu près 109 fois le diamètre de la Terre. Le Soleil pourrait contenir 1 300 000 planètes, la taille de la Terre. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre, 400 fois plus loin que la Lune. Vous pensez que le Soleil est grand? Ce n'est rien. Il y a une étoile, me dit-on, qui s'appelle Bételgeuse ou Bételgeuse. Quelqu'un connaît? Ah oui, d'accord. Donc alors, c'est bien, d'accord. Cette étoile a un diamètre de 160 millions de kilomètres, un diamètre plus large que l'orbite de la Terre autour du Soleil. La lumière du Soleil, qui voyage à la vitesse d'environ 250 000 kilomètres à la seconde, prend 8,30 minutes pour atteindre la Terre. Mais la même lumière prendrait plus de 4 ans pour étendre l'étoile la plus proche, Alpha Centauri, qui est à 30, alors je sais même pas si ça existe, trilliards, milliards, c'est des très très gros chiffres, hein, de la Terre. Très très loin. Alors un scientifique s'est posé la question, peut-on compter les étoiles? Alors c'est impossible de les regarder bien sûr. Donc ce qu'ils font, j'ai lu, c'est qu'ils prennent une section de l'univers, ils comptent les étoiles qu'ils peuvent voir dans cette section, puis ils multiplient la section pour avoir une idée de combien il y aurait d'étoiles dans l'univers. D'accord? C'est apparemment une manière mathématique de faire les choses. Et il y a un gars qui s'appelle Werner Gitt. Voici ce qu'il dit. C'est vrai qu'il nous est impossible de compter les étoiles. Des estimations n'existent que dans le cadre des statistiques stellaires. On sélectionne une partie représentative et définie de la voûte céleste et on y compte précisément les étoiles. Puis on fait une estimation pour l'univers entier. C'est par ce biais qu'on arrive à des nombres incommensurables d'environ 10 exposant 25 étoiles. C'est un 10 avec un petit 25 par-dessus qui veut dire 10 avec 25 zéros derrière. Puissance, hein, puissance. Les plus puissants ordinateurs actuels effectuent environ 10 milliards d'opérations par seconde. Dans l'avenir, ce sera rien, ça. D'accord? Un ordinateur qu'on utilisera uniquement pour compter le nombre des étoiles pourrait compter dans la première seconde, d'accord? Dans une seconde, cet ordinateur compterait 10 milliards d'étoiles. Dans la deuxième seconde, 20 milliards d'étoiles, et ainsi de suite. D'après vous, combien de temps faudrait-il à cet ordinateur pour compter toutes les étoiles? Estimé. Alors, vous n'avez jamais deviné. Est-ce que vous êtes prêts? Voici la réponse. 30 millions d'années. Alors ça, ça donne une idée du nombre époustouflant d'étoiles dans notre univers. C'est incroyable. Ça, c'est la Voie lactée. La Voie lactée est composée de plusieurs centaines de milliards d'étoiles qui tournent sur un axe central. Le tout tourne à une vitesse de 1 million de kilomètres par heure qui lui prendrait 250 millions d'années pour faire un seul tour. Le diamètre de la Voie lactée est 300 000 années-lumière. Je prends des pauses pour un petit peu digérer, d'accord? Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que les astronomes estiment qu'il y a des milliards et même des millions et même des milliards de galaxies. D'accord? Donc prenez cette photo et vous la multipliez par des milliards. J'arrive même plus à prononcer les mots. Galaxie. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable, le verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes choses. Hébreux 1:3, il a créé l'univers. Alors il a créé quoi? Parce que là il dit, voilà. En lui a créé toutes choses qui sont dans les cieux, alors ça on vient de le voir, et sur la terre. Alors maintenant, reculons. Vous voyez la terre, là? Ça, c'est nous. D'accord? Et nous, on est là, quelque part, dans la Voie lactée. D'accord? Alors maintenant, venons sur terre, parce qu'il dit qu'il a créé tout ce qui est sur la terre. Premièrement, les choses visibles. Alors voici quelques-unes des choses qu'il a créées sur la terre. C'est vraiment intéressant. Parlons du cachalot. D'accord? Le cachalot est un mammifère équipé pour plonger jusqu'à 3000 mètres de profondeur sans souffrir de mal de compression. Comment vous expliquez ça? 3 kilomètres sous l'eau. Pas de problème d'oreille. Ils n'ont pas obligé de faire. Pour eux, c'est bon. Alors, j'ai oublié une image. Comment on dit? Un pic et pêche? Un pic et pêche? C'est un oiseau qui pique dans les arbres. Hein, très, très vite. C'est ça, non? Un pic? Un pic vert. Pourquoi ils ont un pic et pêche ici? Un pic vert, d'accord. Alors, écoutez, le pic vert donne de forts coups de bec dans les arbres sans contracter la moindre commotion cérébrale. Essayez de faire un trou dans un tronc avec vos têtes. Hier, on était au match de basket de James et un de ses amis a reçu un coude là dans la figure et il a eu plusieurs points de suture. Ben, le pic n'a pas besoin de points de suture. C'est incroyable. Regardez. C'est un oiseau migrateur. Dispose d'un système de pilotage automatique qui les conduit au but de façon certaine, indépendamment des conditions météorologiques et de l'heure du jour. Le pluvier doré, je crois pas que c'est un pluvier doré ici, par exemple, vole de l'Alaska à Hawaï pour hiverner. Son besoin énergétique pour ce vol de 4500 km est très exactement calculé. 70 grammes de lipides, une réserve de 6,8 grammes étant même prévue en cas de vent contraire. C'est quand même incroyable. Regardez encore. Ça, c'est un otule. ou bien un céphalopode. Le nautule vit à l'extrémité extérieure d'une coquille cartilagineuse en colimaçon dont l'intérieur, regardez bien l'intérieur, est divisé en compartiments. Ceux-ci se remplissent de gaz en fonction de la profondeur de plongée, ce qui permet à l'animal de se maintenir en permanence à une profondeur stable. Ces animaux vivent normalement à une profondeur de 400 mètres, mais remontent la nuit jusqu'à 100 mètres de la surface, comme nos sous-marins modernes paraissent lourds et gauches en comparaison. On continue. Ça, c'est une bactérie. Une bactérie microscopique possède une bactérie qui possède un moteur électrique qui fonctionne au moyen de protons qui leur permet d'avancer ou de reculer dans le volume incroyablement petit de 6 milliardièmes de millimètre cube. Le colibacille dispose de 6 de ses moteurs, d'une centrale électrique pour la production de son propre courant électrique, d'un système informatique et d'un nombre assez important d'usines chimiques. Ça, c'est une bactérie. Et là, on continue. Une cellule. Une cellule vivante est façonnée de manière bien plus complexe et bien plus ingénieuse que toutes les machines construites par l'homme. À l'intérieur d'une cellule, des milliers de processus chimiques synchronisés les uns avec les autres se déroulent simultanément. On est encore plus petit. La molécule de l'ADN de cellules vivantes trouve la densité d'information la plus élevée que l'on connaisse. Combien de livres de poche pourrait-on casé dans une tête d'épingle avec cette technique de sauvegarde? 15 000 milliards d'exemplaires placés l'un sur l'autre, ils formeraient une pile de livres de 200 millions de kilomètres à la hauteur, ce qui correspond à 500 fois la distance de la Terre à la Lune, 380. Bref, l'information à l'intérieur de l'ADN est énorme. Énorme. C'est quelques illustrations. Pour illustrer quoi ? Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est Dieu, le premier-né de toute la création. C'est pour lui tout ça. C'est pour lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Allez à Éphésiens 6, et là vous verrez qu'il y a le monde invisible, il y a tous les anges. Les anges, et c'est ce qu'il appelle ici les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. La Bible nous dit qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'anges invisibles qu'on ne voit pas. Tout a été créé par lui et pour lui. Numéro 4, ça c'était le troisième point, d'accord ? Jésus est le créateur de toutes choses. Numéro 4. Jésus est avant toute chose. C'est ce qu'il dit. Regardez verset 17. Il est avant toute chose. Alors, arrêtez-vous un instant. Jésus est avant toute chose. Alors, ça veut dire quoi? Alors, moi, j'aime bien ça. Si vous allez au livre de la Genèse, verset 1 du chapitre 1, il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À un moment donné, les cieux, ce qu'on vient de voir, et la terre, paf, ont été commencés. Par qui? Par Dieu. Il existait déjà, bien sûr. Dieu a toujours existé. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Colossiens 1? Qu'il est avant toute chose. Ça veut dire quoi? Il est Dieu, bien sûr, il est Dieu. C'est incroyable. C'est ce qu'il avait affirmé, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il a clairement dit, avant Abraham, je suis. Il affirmait clairement qu'il était Dieu. 5. Il maintient toute chose. C'est incroyable encore. Hein. Là, on pourrait faire toute une série. Il est avant toute chose, verset 17. Et en toute chose subsiste en lui. Alors là, je ne suis pas du tout scientifique, mais il y a un truc intéressant. Alors corrigez-moi les scientifiques ici. Il y a un homme qui a écrit un livre. Une atome parle, par un monsieur Lee Chestnut, il décrit le mystère du pourquoi les noyaux d'une atome restent rassemblés. Apparemment, le noyau d'oxygène, par exemple, a en lui 8 protons chargés. Est-ce que c'est juste pour l'instant? Merci. Et 8 neutrons neutres, pour un total de 16 particules. Les physicistes, autrefois, avaient déjà découvert que la charge magnétique, qui sont les mêmes, positive contre positive et négative contre négative, se repousse. Vous prenez deux aimants, hein, négative contre négative, whoop, je crois que c'est le contraire, ou positive contre positive, ça se repousse. D'accord? Alors, la question que les scientifiques se posent, c'est pourquoi le noyau d'un atome reste-t-elle ensemble? Il y a tellement d'énergie qu'il devrait se repousser, éclater. Mais elle n'éclate pas. Elle reste ensemble. La seule manière d'essayer de faire éclater, là peut-être je vais sur du terrain glissant que je ne connais pas trop, c'est de construire une monstre machine à Genève, un accélérateur de particules, pour essayer de faire tac, exploser ces atomes, ces particules, pour regarder dedans. C'est à peu près juste? Merci Serge. Alors la question c'est, mais pourquoi est-ce que ces choses restent collées ensemble? Il n'y a pas d'explication aujourd'hui. Scientifique apparemment, mais la réponse est biblique. Elle est ici. Tout a été créé par lui et pour lui, verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Pourquoi est-ce qu'il y a les saisons? Pourquoi est-ce que la terre? Pourquoi est-ce que tout est tellement bien organisé? Pourquoi est-ce que tout marche avec une telle précision? Voici la réponse. Jésus-Christ, le Créateur. Jésus-Christ, notre Dieu. C'est lui. C'est lui. Il maintient toute chose. Et dernière chose, là j'arrête. La conclusion est simple. Mes amis, j'aimerais vous présenter notre Sauveur, le Sauveur du monde. Je me demande ce qu'elle dirait la dame à Visa. Oui, est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions, monsieur? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis l'image du Dieu invisible, je suis le premier-né de toute la création, je suis le créateur de toutes choses, je suis avant toutes choses, je maintiens toutes choses et je suis le sauveur du monde. Je pense qu'elle aurait raccroché la dame. Et pourtant, c'est exactement vrai. Regardez verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. On n'a même pas le temps de regarder tout ça. Il a voulu par lui. Voici le but. Tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voyez-vous, Dieu qui a créé tout ça, qui a vu l'homme s'engouffrer dans son péché, se rebeller contre lui, ce Dieu a dit « Je t'aime ». Et la seule manière de te racheter de ton péché, c'est que moi je devienne un homme comme toi, moi sans péché, et que je donne ma vie pour toi. Parce que toi, de toute façon, tu vas mourir, mais moi sans péché, Jésus dit, je vais mourir à ta place. Et donc il a été crucifié à la croix, son sang a coulé comme nous avons célébré ce matin. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Oui, le Créateur du monde est devenu un homme. Il a souffert l'ignominie de la croix pour toi parce qu'il t'aime et parce qu'il m'aime. Et aujourd'hui il dit, je peux te pardonner de tous tes péchés maintenant. Maintenant. Comment? Il faut le croire. Il faut dire, Jésus-Christ, je crois que tu es le Créateur, je crois que tu es le Sauveur. Et je te demande d'être mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Il te dit, écoute, je suis prêt aujourd'hui à te pardonner tout ton péché, et je te garantis en plus qu'un jour, tu seras avec moi pour toute l'éternité, saint, sans défaut et sans reproche, dans le paradis. Amen. Voici le message de Noël. Ce Dieu est devenu un bébé. Pour toi et pour moi. « Jésus-Christ est nul autre que Dieu incarné. Seigneur, merci de tout cœur pour ce que nous avons à peine effleuré ce matin. Tellement ta parole est riche, Seigneur. Seigneur, tu nous as éblouis un petit peu ce matin. Je te prie que si quelqu'un ici ce matin n'est pas convaincu du pardon de leurs péchés, qu'il ne quitte pas cet endroit, Seigneur, sans simplement demander à Christ de devenir leur sauveur et leur Seigneur. Car il n'y a de salut en aucun autre que lui. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.